devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Aujourd'hui, nous allons parler de certains événements assez anciens qui ont contribué au prestige de la France. Les expositions universelles qui ont eu lieu à Paris.
C'était à quel moment ces expositions ?
C'était vers la fin du 19e siècle. Il y a eu 5 expositions universelles à Paris entre 1855 et 1900.
Qu'est-ce que c'est une exposition universelle ? Est-ce qu'universel veut dire le monde entier ?
Une exposition universelle est une très grande exposition qui dure plusieurs mois. Ce qui est exposé est très varié. On cherche à présenter des techniques, des arts, les meilleures choses dans de très nombreux domaines. On veut montrer les fleurons de l'industrie, des sciences, des arts. C'est universel car de très nombreux domaines sont représentés et aussi de très nombreux pays. Beaucoup de pays ont préparé des pavillons pour montrer le savoir-faire de leur pays.
On pouvait présenter au public des progrès récents dans de nombreux domaines et faire découvrir aux visiteurs français différentes cultures étrangères.
Et ça avait du succès ? Y avait-il beaucoup de visiteurs ?
Pour chaque exposition universelle de Paris, il y avait des millions de visiteurs. Chaque exposition universelle attirait plus de visiteurs que la précédente.
C'était de plus en plus populaire. La première exposition, celle de 1855, était sur les Champs-Élysées. Un immense bâtiment avait été construit pour abriter cette exposition, le Palais de l'Industrie, sur les Champs-Élysées. Après l'exposition, ce bâtiment a été utilisé pendant des années.
On peut voir le Palais de l'Industrie de nos jours ?
Non, car il a été détruit et remplacé par le Grand Palais et le Petit Palais pour l'exposition universelle de 1900.
On pourrait aussi parler des moyens de transport utilisés pour se déplacer sur le site de l'exposition. C'était bien utile, car l'exposition s'étendait sur une surface très grande.
Certains moyens de transport étaient juste temporaires. Après l'exposition, ils ont disparu. Par exemple, une ligne temporaire de chemin de fer a été installée pour circuler dans l'exposition de 1889. Sur l'eau, sur la Seine, des bateaux-mouches ont été amenés à Paris pour l'exposition universelle de 1867. Aujourd'hui, on peut encore prendre des bateaux-mouches pour visiter Paris.
Comme attraction, il y avait aussi en 1900 un cinéma et une grande roue. On pourrait citer quelques grandes inventions qui ont été présentées à des expositions universelles.
Par exemple, en 1855, le grand public a pu découvrir la machine à laver le linge, la machine à coudre ou encore la tondeuse à gazon.
Qu'est-ce qu'il reste de ces expositions à Paris aujourd'hui ?
Il reste bien sûr la Tour Eiffel et le pont Alexandre III, le Grand Palais et le Petit Palais.
Et hors de Paris, on peut aussi trouver quelques œuvres des expositions universelles. Car certains bâtiments ou certaines parties des expositions ont été achetées par des particuliers.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. compléter le devoir. Deuxième écoute.
Aujourd'hui, nous allons parler de certains événements assez anciens qui ont contribué au prestige de la France. Les expositions universelles qui ont eu lieu à Paris.
C'était à quel moment ces expositions ?
C'était vers la fin du 19e siècle. Il y a eu 5 expositions universelles à Paris entre 1855 et 1900.
Qu'est-ce que c'est une exposition universelle ? Est-ce qu'universel veut dire le monde entier ?
Une exposition universelle est une très grande exposition qui dure plusieurs mois. Ce qui est exposé est très varié. On cherche à présenter des techniques, des arts, les meilleures choses dans de très nombreux domaines. On veut montrer les fleurons de l'industrie, des sciences, des arts. C'est universel car de très nombreux domaines sont représentés et aussi de très nombreux pays. Beaucoup de pays ont préparé des pavillons pour montrer le savoir-faire de leur pays.
On pouvait présenter au public des progrès récents dans de nombreux domaines et faire découvrir aux visiteurs français différentes cultures étrangères.
Et ça avait du succès ? Y avait-il beaucoup de visiteurs ?
Pour chaque exposition universelle de Paris, il y avait des millions de visiteurs. Chaque exposition universelle attirait plus de visiteurs que la précédente.
C'était de plus en plus populaire. La première exposition, celle de 1855, était sur les Champs-Élysées. Un immense bâtiment avait été construit pour abriter cette exposition, le Palais de l'Industrie, sur les Champs-Élysées. Après l'exposition, ce bâtiment a été utilisé pendant des années.
On peut voir le Palais de l'Industrie de nos jours ?
Non, car il a été détruit et remplacé par le Grand Palais et le Petit Palais pour l'exposition universelle de 1900.
On pourrait aussi parler des moyens de transport utilisés pour se déplacer sur le site de l'exposition. C'était bien utile, car l'exposition s'étendait sur une surface très grande.
Certains moyens de transport étaient juste temporaires. Après l'exposition, ils ont disparu. Par exemple, une ligne temporaire de chemin de fer a été installée pour circuler dans l'exposition de 1889. Sur l'eau, sur la Seine, des bateaux-mouches ont été amenés à Paris pour l'exposition universelle de 1867. Aujourd'hui, on peut encore prendre des bateaux-mouches pour visiter Paris.
Comme attraction, il y avait aussi en 1900 un cinéma et une grande roue. On pourrait citer quelques grandes inventions qui ont été présentées à des expositions universelles.
Par exemple, en 1855, le grand public a pu découvrir la machine à laver le linge, la machine à coudre ou encore la tondeuse à gazon.
Qu'est-ce qu'il reste de ces expositions à Paris aujourd'hui ?
Il reste bien sûr la Tour Eiffel et le pont Alexandre III, le Grand Palais et le Petit Palais.
Et hors de Paris, on peut aussi trouver quelques œuvres des expositions universelles. Car certains bâtiments ou certaines parties des expositions ont été achetées par des particuliers.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez 2 minutes à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Cette année, quelque chose a tout changé en France pour les écoliers et les collégiens. C'est la fin des cours le samedi matin à l'école primaire et au collège. Avant, le samedi matin, il y avait classe. Les enfants vont donc à l'école 4 jours par semaine. On appelle cela la semaine de 4 jours. Depuis plusieurs années, on expérimentait ce système. Et les résultats étaient très positifs. Les enfants, comme les enseignants, étaient très satisfaits. La rentrée a seulement lieu plus tôt. Au lieu de rentrer en septembre, on rentre dans la deuxième quinzaine d'août. Comme les vacances sont moins longues, les élèves oublient moins de choses et la reprise des cours se passe mieux. Le gouvernement a donc décidé de généraliser la mise en place de la semaine de 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que les enfants ne travaillent pas non plus le mercredi. La mise en place de la semaine de 4 jours est perçue comme une bonne nouvelle. Par les professeurs d'abord, puisque les enfants oublient moins de choses. Pour les élèves ensuite, parce qu'ils peuvent se reposer un jour de plus par semaine. Pour les familles enfin, car il fallait toujours attendre le samedi après-midi pour partir en week-end. Maintenant, toute la famille peut partir dès le vendredi soir. Mais les journées des enfants en France sont encore un peu trop chargées par rapport aux voisins européens, car les journées sont très longues. Elles commencent le matin vers 8h30 et terminent l'après-midi vers 16h30 ou 17h. On parle beaucoup en ce moment de diminuer le nombre d'heures de cours et peut-être de faire comme dans certains pays, c'est-à-dire ne travailler que le matin. Cela signifie qu'il faudra peut-être diminuer l'enseignement de certaines matières. Le problème est de savoir lesquelles. Et chez vous, c'est comment ?
Vous avez 1 minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Cette année, quelque chose a tout changé en France pour les écoliers et les collégiens. C'est la fin des cours le samedi matin à l'école primaire et au collège. Avant, le samedi matin, il y avait classe. Les enfants vont donc à l'école 4 jours par semaine. On appelle cela la semaine de 4 jours. Depuis plusieurs années, on expérimentait ce système, et les résultats étaient très positifs. Les enfants, comme les enseignants, étaient très satisfaits. La rentrée a seulement lieu plus tôt. Au lieu de rentrer en septembre, on rentre dans la deuxième quinzaine d'août. Comme les vacances sont moins longues, les élèves oublient moins de choses et la reprise des cours se passe mieux. Le gouvernement a donc décidé de généraliser la mise en place de la semaine de 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que les enfants ne travaillent pas non plus le mercredi. La mise en place de la semaine de 4 jours est perçue comme une bonne nouvelle. Par les professeurs d'abord, puisque les enfants oublient moins de choses. Pour les élèves ensuite, parce qu'ils peuvent se reposer un jour de plus par semaine. Pour les familles enfin, car il fallait toujours attendre le samedi après-midi pour partir en week-end. Maintenant, toute la famille peut partir dès le vendredi soir. Mais les journées des enfants en France sont encore un peu trop chargées par rapport aux voisins européens, car les journées sont très longues. Elles commencent le matin vers 8h30 et terminent l'après-midi vers 16h30 ou 17h. On parle beaucoup en ce moment de diminuer le nombre d'heures de cours et peut-être de faire comme dans certains pays, c'est-à-dire ne travailler que le matin. Cela signifie qu'il faudra peut-être diminuer l'enseignement de certaines matières. Le problème est de savoir lesquelles. Et chez vous, c'est comment?
Vous avez quelques minutes à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.